France Culture. Le journal Marion Ferrer.
Bonjour à tous. Deux semaines après le passage de Chido, les Mahorais vivent toujours dans des abris. En premier lieu, dans les rares écoles encore debout. Reportage dans ce journal. En Géorgie, le président d'extrême droite doit être investi ce matin. Une cérémonie à huis clos en raison de la contestation des pro-européens. Et puis c'est l'un de nos plaisirs préférés, en cette fin d'année, le chocolat. Mais attention, les prix du cacao s'envolent. 120 morts et 2 survivants, c'est le très lourd bilan d'un crash aérien ce matin en Corée du Sud. L'appareil en provenance de Bangkok s'est embrasé au moment de l'atterrissage. Les passagers, 181 au total, ont peu de chances de survie, estime le chef des pompiers. Nous serons sur place en Corée du Sud dans le journal de 9h. C'est un chantier colossal qui attend François Bayrou à Mayotte, où il doit arriver demain avec 5 de ses ministres. Première visite depuis la catastrophe. Sur place, les Mahorais subissent toujours les conséquences du cyclone. Les plus précaires reconstruisent eux-mêmes leur logement de fortune, mais beaucoup continuent de trouver refuge ailleurs, dans le nord-est de Grande-Terre, à Magicavo. C'est tout un collège à Gatmaué qui sert de centre d'hébergement depuis maintenant plus de 15 jours.
Il a l'air fatigué de ceux qui n'ont pas arrêté une seconde depuis le cyclone.
Hier soir, on a compté les repas, on a servi 376 repas.
Monsieur Henri, c'est le principal du collège.
Vous voyez les salles de classe transformées en chambres. On avait 60 tapis de sol, c'est tout. Donc les gens après dorment à même le sol.
Nasra se repose avec son petit garçon.
On vit ici.
Nasra habitait jusque-là dans le quartier fait de briques et de broc à côté.
Toutes les affaires sont détruites. On n'a pas encore l'argent pour reconstruire.
La fin de journée approche, le dîner se prépare dans une grande marmite.
Là, on prépare des pâtes.
Et tout ça est géré de façon autonome.
Il n'y a pas d'aide apportée pour le moment. On a pris des stocks du collège. J'ai acheté de la nourriture avec mes propres deniers. Les enseignants sont présents tous les jours.
Alice, qui est professeure d'EPS depuis septembre, ici, a changé de rôle.
Là, on n'est plus leurs enseignants. Je devais rentrer pour Noël. Je me sens pas forcément de partir pour le moment. Je suis bien ici, j'ai l'impression d'être utile.
Le collège pourra-t-il prochainement redevenir simplement un collège? Sans doute pas dès la rentrée du 13 janvier, dit Damien Henry.
C'est impossible d'accueillir tous les élèves, on a des toitures qui sont manquantes. Donc l'eau rentre dans l'établissement, donc on peut pas reprendre un établissement dans lequel qui prend l'eau.
Alors comme beaucoup ici, on attend désormais des annonces, des moyens et du concret.
Reportage de nos envoyés spéciaux Agathe Marais et Benjamin Reyes. Le gouvernement François Bayrou qui cherche à éviter une censure prématurée pour y parvenir. Le nouveau ministre de l'économie, Éric Lombard, se dit prêt au compromis et se dit soucieux, je cite, qu'un budget soit adopté. Dans une interview publiée ce matin à la Tribune dimanche, Éric Lombard assure qu'il va inviter tous les partis représentés au Parlement à se rendre à Bercy pour participer à la conception de ce budget. Et puis, faute de budget, justement, une bonne nouvelle pour les ménages, en revanche, c'est la facture d'électricité qui va baisser en 2025. Le bouclier tarifaire va bien prendre fin le 1er février prochain, mais la hausse de taxes envisagée par le gouvernement ne sera pas appliquée. Conséquence, les factures vont chuter de 14%, un manque à gagner de plus de 3 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Journée sous très haute tension en Géorgie. Le président d'extrême droite, Mireille Kavelavitch, doit être investi aujourd'hui. La cérémonie doit débuter dans quelques instants et se dérouler à huis clos. Sa nomination et la victoire très contestée du parti pro-russe Rêve Géorgie au mois d'octobre poussent depuis plusieurs semaines les Géorgiens pro-européens à manifester. Ils sont d'ailleurs des milliers actuellement rassemblés devant le palais présidentiel. Julien Chavanne, vous êtes sur place à Tbilissi pour RFI et en tête du mouvement, on retrouve l'actuelle présidente.
Oui, Salomé Zourabichvili a appelé ses partisans à la rejoindre devant le palais présidentiel où elle a peut-être passé sa dernière nuit. Les enceintes sont installées dans la cour, devant les chalets du village de Noël, ambiance un peu surréaliste ici. Je vous dirai à quoi ressembleront les jours à venir et comment obtenir la victoire, a écrit hier soir l'ancienne diplomate française devenue présidente rebelle. Les manifestants pro-européens se mobilisent ici tous les jours, depuis un mois, malgré la répression, malgré les arrestations. Mais les opposants que j'ai rencontrés ne savent pas vraiment à quoi ressemblera la suite. Alors jusqu'où Salomé Zourabichvili est-elle prête à aller dans son bras de fer avec le parti au pouvoir? Le Premier ministre l'a directement menacé de prison. À 400 mètres de là, celui qui doit prendre son fauteuil sera investi à huis clos dans un parlement barricadé. L'ex-footballeur anti-LGBT et pro-russe Mirel Kavelashvili a été élu par un collège électoral et non par la population. C'est une première dans le pays. Ce dimanche, le parti Rêve géorgien aura tous les pouvoirs entre ses mains, mais la contestation n'est pas prête de s'éteindre ici.
Et Julien Chavan à Bilici pour RFI et Radio France. Jour d'élection présidentielle également en Croatie. Le chef d'État sortant Zoran Milanovic est donné favori, farouchement opposé au gouvernement. Il est qualifié de pro-russe. Le scrutin se déroule dans un contexte d'inflation, de corruption et d'une pénurie de main-d'œuvre. Le second tour se déroulera le 12 janvier. Et puis alors que les repas de fête de fin d'année sont en train de battre leur plein, le chocolat sous toutes ses formes trône toujours au centre des tables. Des desserts qui pourraient bientôt devenir un luxe car la matière première, le cacao, voit ses prix s'envoler. Les précisions de Laura Dulieu.
Le prix du cacao culmine désormais à plus de 11 000 dollars la tonne. À titre de comparaison, elle était traditionnellement entre 2 et 3 000 dollars ces dernières années. Cela s'explique par la combinaison de plusieurs facteurs. D'abord, la forte baisse de la production en Côte d'Ivoire et au Ghana. Ces deux leaders mondiaux représentent à eux seuls plus de la moitié de la production mondiale de fèves de cacao. Or, ces deux pays ont connu d'importants aléas climatiques, des intempéries et des sécheresses très défavorables à la culture du cacao. Ensuite, cette dégradation des récoltes intervient à un moment où les stocks de cacao sont en baisse et même si les perspectives s'améliorent, ce n'est pas suffisant pour reconstituer ces stocks. Une offre limitée et des stocks très bas donc, mais en face, une demande mondiale qui reste stable, voire qui augmente. Il faut dire qu'il n'y a pas vraiment d'alternative et le chocolat fait partie du quotidien de nombreux foyers. Tous les ingrédients sont donc réunis pour une flambée des prix. Alors qu'une bonne partie du monde célèbre en ce moment les fêtes de fin d'année où le chocolat est traditionnel en bonne place, cette hausse du prix des matières premières se ressent sur les prix à la consommation. Le prix du chocolat dans les rayons comme celui des bûches de Noël sont donc eux aussi en hausse.
Laura Dulieu, un mot de la météo avec un temps sec et froid aujourd'hui. Beaucoup de nuages sur le nord-ouest du pays. Les températures 5 de moyenne cet après-midi pour l'ensemble du pays. La maximale 15 à Nice.